à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Pompagnien. Pardon, Madame Pompagnien, qui est présidente de l'association Simon de Sirène, et évidemment, nous allons en parler. Donc, bonjour Madame.
Bonjour.
Madame Pompagnien, je vais d'abord vous présenter à nos auditeurs. Vous avez 5 enfants, déjà tous majeurs ou quasiment.
Entre 16 et 27 ans.
Entre 16 et 27 ans, donc certains ont déjà fini leurs études, j'imagine, et sont déjà dans la vie active. Vous êtes de la paroisse de Pibrac, où vous avez un certain nombre d'activités, lesquelles d'ailleurs, vous pouvez nous les préciser ?
Oui, je fais plusieurs petites choses. Je fais partie du conseil économique de la paroisse, et puis je fais partie de la prière des mères, hein, qui est un mouvement international de prière des mamans. Voilà, chaque maman prie pour ses enfants, pour son mari et pour un prêtre.
Toutes les semaines.
Et ses filleules, pardon.
Toutes les semaines.
Toutes les semaines, oui. Une fois par semaine.
C'est un groupe de prière actif et surtout en réseau. C'est ça qui est bien, puisque vous faites ça, c'est international.
Vous. Voilà, c'est international, et ce qui est beau, c'est que c'est intergénérationnel. Il y a, dans notre groupe, il y a à la fois...
des grands-mères,
des grands-mères, des mamans de jeunes enfants, voilà. Et des mamans d'enfants plus grands comme moi.
Très bien. Bien, Madame Pompagnien, décidément, j'y arrive pas. Madame Pompagnien, comme je le disais, vous êtes présidente de l'association Simon de Sirène. Évidemment, on va en revenir dessus, mais vous n'avez pas fait que ça dans la vie, loin de là. Hein. Vous êtes d'abord une carrière, je dirais, classique. Finalement, vous avez fait l'école de commerce de Toulouse, qui aujourd'hui s'appelle TBS, mais qui à l'époque s'appelait Subdoco.
Oui, c'est ça.
Et puis, vous avez été faire un MBA en Angleterre.
Oui.
Donc, c'est vraiment le parcours standard du jeune étudiant brillant de Toulouse. Vous êtes toulousaine.
Oui.
Et puis, tout d'un coup, donc, vous avez commencé par travailler dans des services de formation, puis dans des services RH d'entreprise. Airbus d'abord, et ensuite une entreprise de 700 salariés. Donc une carrière tout à fait classique, et puis au bout de 10 ans à peu près, si j'ai bien regardé, il y a un virage complet dans votre cursus, et vous devenez professeur des écoles. Qu'est-ce qui vous a pris tout d'un coup ?
Alors en fait, c'était un peu un rêve de petite fille, c'était ce que j'avais toujours voulu faire, mais voilà, au gré des études et de mon parcours, voilà, l'orientation, on avait décidé autrement. Et donc, à la faveur d'un déménagement, puisque nous habitions Paris et nous avons déménagé à Toulouse, je me suis dit, mais finalement, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'être professeur des écoles et professeur des écoles auprès d'enfants en situation de handicap. C'était vraiment mon idée depuis le départ.
Et donc là, vous faites le parcours complet, c'est-à-dire vous vous inscrivez dans un IUFM.
Oui, hein, à l'époque c'était ça. Ouais.
C'était comme ça, ouais. Et donc vous rentrez dans l'éducation nationale.
Oui.
Et ensuite, donc, comment vous passez de ça, de l'éducation nationale avec un parcours, je dirais, classique d'enseignant, à tout d'un coup les enfants en situation de handicap, et puis on en parlera après aussi, vous êtes spécialisé par votre formation dans l'autisme.
Oui, c'est ça, oui.
Là aussi, pourquoi ce virage ?
Alors, le virage vers le handicap, vraiment c'était mon idée de base. Bon, faut savoir que je me suis longtemps arrêtée de travailler pour élever nos 5 enfants, et quand j'ai repris le travail... J'ai cherché un poste qui avait un lien avec le handicap. Et il y avait un poste pas très loin de chez moi, avec des enfants porteurs d'autisme. Voilà, je ne connaissais rien à l'autisme, mais le handicap ne me faisait pas peur. Je suis allée voir, ça m'a plu, et j'ai postulé, j'ai été prise. Et voilà, c'est ma 5e année scolaire dans cette classe. Et voilà, je peux dire que je me régale.
Bon, on parlera de cette expérience parce que c'est très intéressant de bien comprendre quelle est la spécificité justement de ces publics d'autistes d'un point de vue enseignement. Donc votre éclairage sera très précieux. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on parle de votre engagement auprès des handicapés à travers l'association Simon Sirène. Je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs savent en général que ça existe, mais ne savent pas trop comment ça marche, comment c'est structuré, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Oui, alors Simon de Sirène, c'est une association nationale qui a été créée il y a une douzaine d'années par Laurent de Cherizet, qui est un entrepreneur social. En fait, sa sœur, à 19 ans, a eu un grave accident de voiture, s'est retrouvée très handicapée, et il s'est aperçu avec ses parents qu'il n'y avait aucune solution de lieu de vie pour sa sœur. Et donc, il a créé cette association qui vise à rompre la solitude des personnes avec des lésions cérébrales. Alors, les lésions cérébrales, c'est soit de naissance, avec des infirmités motrices cérébrales, soit suite à ce qu'on appelle un accident de la vie, donc accident de la route, AVC, trauma crânien.
Voilà. Et donc là, évidemment, l'association s'occupe, c'est tous les âges.
Y a oui. Pas de... Alors, adultes.
Adultes.
Voilà,
oui. Vous ne occupez pas des adolescents ou des...
Non, il faut qu'ils soient majeurs.
D'accord. Et donc, vous prenez le relais sur les adultes à Toulouse, enfin à Pibrac. Vous êtes en train de construire des maisons,
oui,
c'est
oui.
ça ? Donc ça se passe avec des maisons
oui.
dans des villes. Est-ce qu'il y en a partout en France ?
Alors il y en a dans 7 villes en France. Il existe actuellement 25 maisons dans lesquelles vivent environ 300 personnes porteuses de handicap.
Oui. Et là, il y a évidemment des accompagnants pour les aider au quotidien, qui sont des salariés,
oui,
c'est ça ?
Oui.
Et qui sont des vrais professionnels, quoi.
Oui, oui, oui. Alors en fait, c'est un système d'habitat inclusif, hein, de vivre ensemble. Donc les personnes en situation de handicap vivent avec leurs accompagnants sur place. Chacun a un studio et il y a des espaces de vie communs qui permettent de partager les moments simples de la vie. Donc par exemple, la cuisine, le partage des repas, des jeux, des films. Voilà. Donc il y a à la fois ces deux dimensions dans les maisons. La dimension où chacun a son studio, peut avoir son propre lieu de vie, son espace personnel.
Et puis des espaces communs. Et un rythme de vie indépendant aussi.
Oui, oui, oui.
Et est-ce qu'il y a du travail ? Est-ce qu'il y a un accompagnement dans le travail pour certains ?
Non.
Non.
Non. Je ne crois pas. Non, c'est des personnes qui ne peuvent pas travailler.
Qui sont complètement en dehors. Donc la socialisation ne peut pas se faire par le travail.
Voilà, ouais.
Donc ça se fait par des promenades, par des
Oui, l'idée, c'est d'établir activités. Aussi un contact avec le voisinage. Donc, dans la région toulousaine, les maisons, la construction des maisons a débuté à Pibrac, qui est une petite ville de 8 ou 10 000 habitants.
Banlieue de Toulouse.
Voilà, proche banlieue, au cœur de la ville, justement pour permettre un contact avec la population.
Et là, donc en ce moment, il y a combien de... Vous en avez combien de pensionnaires ?
Alors pour le moment, on n'en a pas, puisque les maisons sont en construction. Mais à terme, les maisons pourront accueillir 18 personnes en situation de handicap et 15 personnes valides. Donc ce sont 33 personnes qui vivront ensemble.
D'accord. Alors vous en êtes où du programme de construction là,
Alors on est au tout début. Hein. On a posé la première pierre mi-décembre. Et je passe souvent devant, ils sont en train de creuser pour faire les fondations. Et l'ouverture est prévue courant 2024.
Vous disiez que vous étiez dans le centre, mais si vous construisez, c'est un lotissement donc ?
Non, c'est un bâtiment en U, on va dire. Hein, les trois parties du U constituant les trois maisons.
D'accord.
Ce sera situé, pour les gens qui connaissent, tout près de la basilique de Pibrac.
Ah d'accord. Oui, parce que Pibrac a cette particularité d'avoir à la fois une basilique et un temple qui se font quasiment face, c'est ça ?
Et une église, oui.
Et une église ?
Oui, l'église paroissiale où Sainte-Germaine allait prier
Sainte-Germaine de Pibrac,
de son vivant. fait face à la basilique qui a été construite pour le pèlerinage en son honneur tous les 15 juin.
C'est ça. Donc vous êtes là au cœur donc, de la ville de Pibrac.
Oui.
Et c'est un programme qui devrait se terminer quand
Alors courant 2024, on devrait pouvoir accueillir.
Ouais, ouais. Donc vous avez déjà commencé à repérer à la fois les pensionnaires et les accompagnants ou...
Alors pas encore. Hein. On devrait commencer ça dans 6 mois. On a déjà une petite idée sur certaines personnes qui pourraient souhaiter y vivre, puisque à Toulouse, l'association a 2 volets. Donc, d'une part, la construction de ces maisons partagées à Pibrac, et d'autre part, un groupe d'entraide mutuelle, un GEM, qui accueille déjà des personnes avec des lésions cérébrales, en leur proposant des activités toute la semaine, tous les jours de la semaine, il y a des activités qui sont proposées et qui permettent aussi de rompre la solitude.
Donc ce groupe, ce GEM groupe...
D'entraide mutuelle.
Il est où physiquement
Alors il est en ce moment plutôt sur Toulouse. Hein. On est accueillis sur 2 paroisses, la paroisse des Pradettes et la paroisse de Bagatelle, où les activités sont partagées. Et on cherche un local, si jamais quelqu'un a une idée. On cherche un local plus stable et plus pérenne.
Et quelle superficie faudrait qu'il ait pour que ça...
100 mètres carrés.
100 mètres carrés.
Ouais.
À Toulouse, de préférence.
Voilà, accessible en métro, en tout cas.
Accessible en métro. Mmh. Et les personnes qui fréquentent ce regroupement-là, combien vous en avez à peu près?
Alors, il y a 30aine de personnes qui participent à ces activités. Alors, pas toutes en même temps, hein, puisque les activités sont très variées. Donc, chacun vient selon ce qui lui plaît. Voilà, ça va de la cuisine à la danse, en passant par la lecture, le cheval, la musique.
Ah, il y a aussi de l'équitation, mais ouais. Ça, vous ne faites pas ça dans un local de 100 mètres carrés.
Non, on fait ça à l'extérieur, oui.
Oui, il paraît que le contact avec les animaux et les chevaux en particulier est un des vertus extraordinaires.
Oui, l'équithérapie a montré ses bienfaits sur les personnes en situation de handicap.
Ça, c'est une belle expérience aussi. Donc, vous avez des accompagnants qui sont capables de les amener dans des clubs hippiques.
Enfin, oui,
ça suppose des voitures adaptées, etc.
Oui, ouais. Voilà, on a un véhicule adapté. Et puis, les personnes utilisent les services de Mobibus sur Toulouse. Et, voilà, et puis, on fonctionne avec beaucoup de bénévoles aussi.
Donc ça, évidemment, on comprend bien que ça va être le lieu un peu de recrutement pour trouver des pensionnaires pour vos maisons.
Alors c'est un lieu, voilà, c'est un lieu parmi d'autres. Il y a des personnes qui participent à ces activités qui vous diront qu'elles ne veulent absolument pas y aller parce qu'elles ont déjà trouvé un équilibre dans là où elles habitent. Et puis d'autres qui ont très envie d'y aller par contre, voilà. Donc ce ne sera pas le seul lieu.
Oui, parce que ce que, au fond, vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a des personnes qui souffrent de solitude parce que le handicap, évidemment, isole, crée de la distance avec un certain nombre de personnes, mais pas toutes finalement, puisque d'autres ont trouvé un équilibre.
Et, oui.
Donc, ça veut dire que quand même les choses sont pas catastrophiques pour tout le monde. Et second volet de ces personnes, de l'accueil de ces personnes, c'est évidemment il faut trouver le personnel qui accepte aussi de. Et là, comment ça se passe? C'est du personnel permanent?
Alors oui, puisque les personnes vivront sur place.
Vivront sur place.
Donc c'est soit des auxiliaires de vie, soit des jeunes en service civique. Pour la majorité, hein, voilà.
Ah oui, donc ce sont plutôt des étudiants.
Enfin, alors des étudiants ou des jeunes professionnels, on va dire, plutôt.
Ah oui, plutôt des jeunes professionnels. Ouais. Et qui viendront passer 1, 2, 3 ans, nécessairement s'engager.
Ouais.
Donc, et ça, pas de problème pour recruter ce type de profil?
Alors écoutez, je ne sais pas, puisque nous ne l'avons pas encore fait...
Oui, mais voilà, les marché... autres villes.
Oui, où... voilà. Écoutez, ça a l'air de se faire quand même. Après, un projet qui plaît ou qui plaît pas, j'ai envie de dire. On a rencontré récemment un assistant de la ville de Nantes qui nous a témoigné de son expérience. Et Voilà, lui, il a commencé jeune comme assistant et puis maintenant, il est responsable de maison. Il a vraiment adhéré au projet. Voilà, c'est un projet qui est quand même particulier.
Ah oui, bien sûr.
Et bon, écoutez, les autres villes ont l'air de trouver le personnel nécessaire.
Sans trop de difficultés.
Sans trop de difficultés, oui.
Oui, parce que c'est, évidemment, c'est conditionné par ces recrutements.
Et oui, bien sûr. Ouais.
Et on sait que... Dans ce sont des emplois difficiles qui nécessitent un engagement de la part des personnes un peu hors du commun. Et il y a une surveillance qui doit être faite, j'imagine, parce que il y a toujours des risques de dérive dans ces situations. Donc c'est quand même des petites communautés qui vivent ensemble. Donc vous, en tant que présidente, quel est votre rôle précisément? Est-ce que vous êtes là pour surveiller que tout se passe bien, que...
Alors il y aura une directrice de maison qui est... Armelle Pagès, qui est la créatrice, la fondatrice de l'association sur Toulouse. Donc ce sera elle qui sera chargée de la gestion proprement dite des maisons. Et moi, voilà, j'aurai un regard un peu à la fois extérieur et intérieur, voilà, sur ce qui se passe et de veiller à ce que effectivement tout soit dans les règles, c'est beaucoup dire, mais je ne sais pas comment on peut dire, mais voilà, que tout se passe bien, voilà, oui. dans une bonne entente générale.
Et parce que la directrice va habiter sur place, elle aussi?
Non.
Donc, habiteront ensemble les accompagnants et les personnes en situation de handicap.
Oui, et un responsable de maison par maison. Donc, trois responsables de maison sur Pibrac.
Donc, ça fait, dans ce bâtiment en U qui sera dans le centre des Pibrac, ça fait quand même une trentaine de personnes
oui,
qui vont cohabiter.
Oui, tout à fait. Oui. On va créer une vingtaine d'emplois, donc c'est aussi une bonne nouvelle.
Pour la commune.
Ouais, pour la commune. Et, voilà.
Bien sûr. Et vous avez une aide de la mairie de Pibrac?
Alors, on a une aide dans la mesure où la maire de Pibrac, Camille Pouponneau, est... Et vraiment soutient vraiment notre projet et très heureuse de notre projet. Oui, tout à fait.
Et alors, d'un point de vue, puisqu'on parle de soutien, d'un point de vue financement, comment ça fonctionne ces,
Alors, pour le moment, nous sommes en pleine phase de recherche de dons, puisque voilà, ce projet, évidemment, de construction a un coût. Donc, nous cherchons des dons, à la fois de particuliers et d'entreprises et de mécénats. Et sinon, on a 7%, entre 7 et 10% de subventions de l'État, et puis des prêts aidés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
D'accord, donc voilà. il y a un tour de table qui est fait, j'imagine, ou à peu près. Je sais que Philippe Chausson, que j'avais eu le plaisir et l'honneur, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités formidables, d'engagement pour les autres... Philippe Chausson, qui est dans le bâtiment, m'avait expliqué qu'il suivait de près oui. la construction des maisons de Simon de Sirène et qu'il était en train de boucler le financement, mais pas complètement au moment où je l'ai interviewé. Vous en êtes où, alors?
Bah écoutez, il nous manque 1 million d'euros, une bagatelle. Mais voilà, nous sommes confiants. Nous avons 2 ans pour les trouver et bon, on va y arriver.
Voilà, puis je suis sûr que dans nos auditeurs, si certains sont intéressés ou connaissent des gens susceptibles de vous aider, de vous accompagner, évidemment, vous êtes une association
oui,
reconnue, ouais. donc c'est défiscalisé.
Oui, tout à fait, ouais.
Comme toutes les
pour
associations.
Pour les particuliers et les entreprises, oui.
Pour les particuliers.
Et même au titre de l'impôt sur les grandes fortunes.
Sur les fortunes
immobilières, pardon.
C'est jusqu'à 75%,
oui,
je crois, qui peut être déduit. Donc c'est très incitatif. Comment on fait pour trouver le canal, pour vous aider, si nos auditeurs veulent le faire? Ils tapent Simon de Sirène
sur Internet.
Simon de Sirène Toulouse, parce que c'est vrai qu'il y a, quand on va sur le site Internet, il y a plusieurs lieux, oui. on ne s'y retrouve pas forcément.
Mais même sur le site de la Fédération Simon de Sirène, si vous voulez faire un don, à un moment donné, on vous demande pour quelle ville vous voulez faire le don. Donc, voilà.
Parce qu'il y a une fondation aussi derrière.
Oui.
Qui permet de collecter les fonds.
Oui, tout à fait.
Hein, c'est ça, et qui redistribue sur les différents
oui,
sites.
Ouais,
hein,
ouais.
Comme vous avez dit, il y a 7 villes en France
ouais.
où il y a ce type de maison,
voilà, ouais.
soit qui existe, soit en projet.
Ouais.
Et comme vous l'avez dit, c'est une association Simone Sirène créée en 2017, donc c'est relativement récent.
Oui.
Et du coup, bah, les choses se mettent en place au fil de l'eau.
Oui, oui, bah, y a de gros besoins. Donc,
Bon. Bien, écoutez, merci pour toutes ces précisions sur Simone Sirène. Alors je voudrais qu'on revienne sur un sujet qu'on a évoqué précédemment, qui est celui de l'autisme. L'autisme, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup quand on ne connaît pas, parce que on a des images dans la tête d'enfants autistes avec lesquels les parents sont souvent complètement démunis, savent pas trop comment s'y prendre, savent pas trop comment faire. On a l'impression que c'est un problème éducatif très compliqué. Et finalement, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer des adultes qui avaient été des enfants autistes et donc qui sont restés marqués par cette maladie. Est-ce qu'on peut parler d'une maladie psychologique? Oui, un peu.
On ne guérit pas de l'autisme.
On ne guérit pas de l'autisme, non, c'est non, ça. Non. C'est-à-dire que les adultes que j'avais en face de moi restaient comme ça, avec un peu particulier, mais des gens qui étaient parfaitement intégrés, insérés. C'est pas évident de réussir quand même le parcours. Donc expliquez-nous un peu comment ça marche, qu'est-ce que vous faites là-dedans.
Alors on parle d'un spectre de l'autisme, hein. On parle de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme. Ça veut bien dire qu'il y a autant d'autisme que de personnes porteuses d'autisme. Donc c'est extrêmement varié. Alors moi là-dedans, je suis enseignante et donc j'accueille au sein d'une UEMA, une unité d'enseignement maternel autisme, 7 petits élèves qui ont entre 3 et 5 ans, donc sur les 3 années de maternelle. C'est un dispositif qui a été créé lors du premier plan autisme, il y a quelques années. Et donc il y a une ou plusieurs classes comme ça par département. Par exemple, sur Toulouse, il y a 3 classes comme ça.
Qui sont dans des lycées, non, dans des collèges.
Dans des écoles, alors nous c'est maternelle.
Ah oui,
donc on est
dans les primaires.
On est une classe spécialisée dans une école ordinaire. Donc ma classe est dans une école maternelle tout à fait normale.
Et donc ça veut dire que ces enfants ont des lieux communs avec les autres,
ouais,
les cours de récréation, etc.
Ouais, voilà, le bénéfice, enfin l'intérêt de ce dispositif, c'est d'une part que nous sommes une équipe pluridisciplinaire, donc... Moi, je suis éducation nationale, mais dans la classe, je travaille avec 5 ou 6 personnes issues du médico-social, donc éducatrice spécialisée, psychologue, psychomotricienne et orthophoniste. Et l'intérêt, c'est qu'il y a effectivement des lieux communs avec les autres classes. Et dans la mesure du possible, nos élèves vont en inclusion dans les classes ordinaires. Alors, suivant la possibilité de chacun, tout ça est très individualisé. Donc, on a un élève qui va 10 minutes par semaine et l'autre qui va presque à mi-temps. Donc, c'est vraiment en fonction de chaque enfant.
Et ça, c'est vous qui posez le diagnostic, l'équipe pédagogique, ou c'est à la demande des parents ou...
Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne pose pas de diagnostic.
Non, mais sur, par exemple, le temps que je vais passer dans une autre classe, etc.
Alors, tout est affaire de réflexion de l'équipe. Vraiment, on est... On a 3 heures, au moins 3 heures de réunion par semaine en équipe pluridisciplinaire pour évaluer ensemble ce qui est le mieux pour chacun de nos élèves.
Et alors les résultats, ça donne quoi? C'est des élèves qu'on arrive à intégrer, à faire passer les examens sans trop de
problèmes? Alors ça dépend. Alors nous, ils sortent, donc ils sont en grande section. Donc certains vont en CP ordinaire, souvent avec l'appui d'une AESH.
AESH, ça veut dire adjoint d'enseignement.
C'est ce qu'on appelait les AVS avant.
Quand on ne connaît pas la...
Ah oui, alors c'est les...
les sigles de l'éducation nationale, il y en a tellement qu'on s'y perd un peu.
AESH, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est les personnes qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans leur scolarité. Sinon, il y a la possibilité d'aller en ULIS. Donc, c'est ces dispositifs qui permettent à des enfants en situation de handicap d'être inscrits dans une classe, mais d'avoir des temps où ils vont, dans ce dispositif, approfondir certaines matières, refaire certains cours, voilà. Et sinon, c'est l'IME, donc institut médico-éducatif, où malheureusement il n'y a pas assez de place en France, mais voilà, quand les enfants sont trop déficients pour aller dans
suivre
le milieu ordinaire,
normal,
voilà,
ouais.
Voilà, ils vont dans ces instituts-là.
Et quelle est la proportion de...
Alors, si on regarde sur plusieurs années, je dirais que c'est à peu près 40% qui vont dans le milieu ordinaire et 60% dans le milieu spécialisé.
D'accord. Et vous, concrètement, en tant qu'enseignante, quelle est la différence par rapport à un enseignant lambda? Qu'est-ce que vous faites de différent avec eux?
Alors, je suis les programmes de l'éducation nationale, mais de manière très adaptée. Voilà, vraiment, je m'adapte à chaque enfant. Et la spécificité aussi de ces classes, c'est que comme on a un regard de plusieurs compétences différentes, donc c'est vraiment un travail d'équipe, hein, contrairement à une enseignante qui d'habitude est quand même assez solitaire. Donc là, c'est vraiment un travail d'équipe. On est en permanence 6 adultes pour 7 enfants dans la classe.
Ah oui, c'est quand même très lourd pour la gestion du service public en termes de postes, etc. Est-ce qu'il y a l'équivalent dans le privé? Non, c'est que
je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. Ouais, ouais.
Bah oui, parce que c'est quand même.
C'est un très beau dispositif de l'éducation nationale qui a une grosse dotation financière et bon, il en faudrait plus. Hein, c'est toujours pareil, mais c'est déjà bien que ça existe.
C'est déjà bien que ça existe parce que je pense que tous les pays n'ont pas cette chance d'avoir un système qui est gratuit finalement.
Oui. Ouais, ouais.
Et qui met à disposition 6 personnes pour 7 enfants, C'est exceptionnel, donc vous faites un travail formidable.
Oui, c'est très beau.
C'est très enrichissant, je pense, sur le plan de la personnalité, mais c'est aussi beaucoup de dévouement, parce que je crois comprendre qu'avec les autistes, on n'a pas toujours un retour facile, non?
Bah, écoutez, ça dépend desquels, mais... Si, globalement, bon, c'est quand même très satisfaisant de voir qu'ils font des progrès. Donc, chacun à sa mesure, mais voilà, ils font des progrès et voilà, ça encourage à continuer. Et à continuer.
Bien, je crois que notre temps est malheureusement écoulé. Madame Pampagnin, merci beaucoup pour vos témoignages. Bravo d'avoir pris la présidence de cette association Simone Sirène, et j'espère que votre projet de construction va se dérouler pour le mieux et que vous pourrez rapidement ouvrir cette maison pour une trentaine de personnes. Et puis, merci de nous avoir éclairé aussi sur l'autisme et la façon dont on pouvait essayer d'intégrer ces enfants dans le système éducatif normal. Merci beaucoup de votre témoignage.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.